VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous et à tout le monde. Aujourd'hui, édition du jeudi 30 mars 2017, en direct de Washington. Idrissa Seydoudia et Anne Albertson pour commencer les titres.
En République démocratique du Congo, le rassemblement déclare ne plus reconnaître le président Joseph Kabila.
Et l'ambassadrice américaine à l'ONU, Nikki Haley, a déclaré hier que les Nations Unies collaborent avec un gouvernement corrompu au Congo.
Au Kenya, la justice donne au Parlement 60 jours pour voter une loi garantissant une hausse du nombre de femmes parlementaires.
Ici, aux États-Unis, un juge fédéral d'Hawaï a prolongé hier, pour une durée indéterminée, le blocage du dernier décret migratoire de Donald Trump.
Et à la commission sénatoriale du renseignement, début aujourd'hui des audiences publiques sur l'ingérence russe dans la présidentielle de 2016.
Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la minute éco pour l'instant, le journal.
En RDC, le processus de mise en œuvre de l'accord du 31 décembre 2016 étant compromis, le rassemblement déclare rompu, je cite, l'acceptation de M. Joseph Kabila comme chef de l'État pendant la courte période préélectorale et électorale. Dans une déclaration lue mercredi à Kinshasa, le rassemblement a accusé le président Kabila d'être le seul responsable de l'échec des négociations. Martin Fayoulou, cadre du rassemblement de l'opposition.
Le rassemblement rappelle à l'opinion nationale et internationale qu'en bloquant délibérément le processus électoral et en désacralisant les institutions républicaines réduites en simples instruments de conservation du pouvoir, M. Joseph Kabila, sa famille politique et leurs alliés sont les seuls responsables de la situation des crises politiques, sécuritaires, économiques et sociales que connaît actuellement la République démocratique du Congo et qui frappe durement le peuple congolais. Dès lors, comme toutes les autres institutions de la République, M. Kabila est dépourvu de toute légitimité. Il ne peut par conséquent s'ériger en arbitre d'une crise qu'il a intentionnellement créée. M. Joseph Kabila est l'incarnation de la crise. Il ne peut en aucun cas en être la solution. N'est-il donc pas aujourd'hui le problème congolais ?
Pour sa part, le chef du rassemblement, Félix Tshisekedi, a annoncé un plan de mobilisation générale en RDC.
À dater de ce jour, je demande au peuple congolais de 1. Demeurer en état d'alerte et de résistance. 2. Contribuer à la réussite de la journée ville morte sur toute l'étendue du territoire national le lundi 3 avril 2017. 3. Soutenir la grève générale décrétée par les syndicats le mercredi 5 avril 2017. Et enfin, 4. Participer massivement à la marche pacifique annoncée par l'UDPS pour la date du 10 avril et d'autres manifestations publiques pacifiques pour revendiquer l'application de l'accord de la Saint-Sylvestre du 10 au 24 avril 2017.
Nos remerciements à Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa, pour ces déclarations de messieurs Tshisekedi et Fayoulou.
Concernant toujours la République démocratique du Congo, la représentante permanente des États-Unis à l'ONU a déclaré hier que les Nations Unies collaborent avec un gouvernement corrompu au Congo. Et Nikki Haley soutient une réduction drastique des effets de la mission de l'ONU dans ce pays d'Afrique centrale. Les précisions de Michel Joseph.
S'exprimant mercredi au Conseil des relations extérieures à New York, Mme Haley a accusé la mission onusienne, la MONUSCO, d'aider un gouvernement congolais qui affiche, selon elle, un comportement de prédateur vis-à-vis de son propre peuple. Les États-Unis sont le principal soutien de l'ONU, contribuant à hauteur de 22% à son budget régulier et plus de 28% au financement de 16 missions de maintien de la paix. L'administration Trump entend revoir cet appui dans le cadre de sa politique de réduction de l'aide étrangère. Les effectifs des troupes de la MONUSCO peuvent être dramatiquement diminués, a fait savoir la représentante des États-Unis à l'ONU. Nikki Haley s'est aussi exprimée au sujet de la situation au Soudan du Sud, un pays dévasté par la guerre civile et la famine, et où, a-t-elle déploré, il n'y a pas de solution politique en vue. Il faut repenser le mandat de la mission de l'ONU dans ce pays, a déclaré Mme Haley, qui a critiqué le gouvernement sud-soudanais d'entraver l'accès des organisations humanitaires aux zones de conflit.
En République centrafricaine, le président Faustin Archange Touadéra veut placer ce jeudi, l'an 1 de son mandat, sous le signe de la réconciliation, Arzuma Compaoré.
Le président Touadéra a pris ses fonctions le 30 mars 2016 après 3 années d'affrontements sanglants et meurtriers en République centrafricaine. L'autorité de l'État n'est toujours pas rétablie à l'intérieur du pays où des groupes armés restent actifs, notamment vers Bria et Bambari. À Bangui, la capitale, le camp des déplacés de l'aéroport de Mpoko, qui s'étalait le long du tarmac, s'est presque entièrement vidé. Au quartier Boeing, ex-fief des milices anti-Balaka, derrière l'aéroport, un conducteur de moto-taxi musulman a été tué. Mais ce meurtre n'a pas été suivi de représailles. Dans le quartier musulman du PK5, des groupes d'autodéfense ont pignon sur rue. 900 000 Centrafricains sont déplacés ou réfugiés pour une population de 5 millions d'habitants.
Au Kenya, la justice donne au Parlement 60 jours pour voter une loi garantissant une hausse du nombre de femmes parlementaires. La haute cour de Nairobi brandit la menace de dissolution de l'Assemblée nationale si elle ne se conforme pas à la Constitution, Jacques Aristide.
La Constitution requiert qu'au moins un tiers des députés soient de sexe féminin. Mais le Parlement, largement dominé par les hommes, n'a jamais voté de loi en ce sens. Ses membres avaient pourtant jusqu'à août 2015 un délai repoussé d'un an, mais toujours sans effet. Pour le juge John Mativo, le Parlement s'est montré coupable d'une violation grossière. Si les députés n'adoptent pas la loi, dit-il, les requérants pourront demander à la Cour suprême de conseiller au président de la République de dissoudre le Parlement. 4 organisations de défense des droits humains ont saisi la haute cour avant les élections générales prévues en août prochain. En 2013, les élues femmes avaient obtenu 68 sièges sur 349. Le Kenya est toujours loin derrière. Le Rwanda, d'ailleurs leader mondial en matière de parité, avec 61,3% de femmes dans sa chambre basse du Parlement, l'Éthiopie 38% et le Burundi 36%.
Violence xénophobe en Inde, une Kenyane a été agressée hier à Greater Noida, où des étudiants africains ont déjà été pris à partie lundi après la mort d'un adolescent. Des détails avec Claire Moragibourg.
C'est alors qu'elle rentrait chez elle à bord d'un taxi que cette étudiante de 25 ans, d'origine kényane, a été prise à partie. Les agresseurs l'ont sortie du véhicule pour la gifler et la rouer de coups. La jeune femme a été conduite à l'hôpital et a porté plainte. Greater Noida est dans la périphérie de New Delhi, où vivent des centaines d'Africains inscrits dans de grandes universités et écoles renommées. Cet incident survient alors que la police a renforcé les mesures de sécurité suite aux agressions lundi dernier de plusieurs autres Africains. De nombreuses vidéos circulent sur les réseaux sociaux où l'on voit de jeunes Africains se faire frapper à coups de bâtons et de chaises en métal. Ces derniers incidents ont éclaté à la suite de la mort dimanche dernier d'un jeune Indien de 16 ans à cause d'une overdose. 5 étudiants nigérians ont été arrêtés dans le cadre de cette affaire, des résidents les ayant accusés de meurtre. Mais les Nigérians ont par la suite été relâchés faute de preuves.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Un juge fédéral d'Hawaï, Derek Watson, a prolongé hier pour une durée indéterminée le blocage de la mise en œuvre du dernier décret migratoire de Donald Trump concernant 6 pays à majorité musulmane. Cette décision était jusqu'à présent temporaire dans le cadre d'une procédure lancée par l'État d'Hawaï, selon lequel le décret du président américain interdisant temporairement l'entrée de ressortissants de ces 6 pays musulmans viole la Constitution des États-Unis.
Et puis la commission sénatoriale du renseignement commence aujourd'hui ses audiences publiques sur l'ingérence russe dans la présidentielle américaine de 2016 et toute possibilité de collusion entre de proches collaborateurs du président Donald Trump et Moscou. Hier, le président républicain de cette commission, Richard Burr, et son principal membre démocrate, Mark Warner, ont promis une enquête exhaustive et impartiale. En revanche, c'est toujours la confusion au sein de la commission du renseignement de la Chambre des représentants où les audiences publiques ont été annulées cette semaine. Son président républicain, Devin Nunes, a provoqué un tollé en faisant personnellement un briefing au président Trump sur des informations classées qu'il n'a toujours pas partagées avec les membres de sa commission. Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, Morgane Guiriec.
Au Ghana, le président Nana Akufo-Addo tente de remettre sur pied le secteur de l'énergie. Selon lui, la dette laissée par son prédécesseur en matière d'énergie s'élève à quelque 2,4 milliards de dollars, ce qui freine l'accès des Ghanéens à une électricité fiable et bon marché, estime-t-il. Le gouvernement mise désormais sur le solaire. Au Mozambique, l'extraction des rubis s'accompagne de violences. À Montepuez, la police et des compagnies de sécurité sont soupçonnées de recourir à la force pour se débarrasser des mineurs informels. L'an dernier, près de 40% de la production mondiale venait du Mozambique, qui a vendu pour plus de 225 millions de dollars. Amazon s'implante en Afrique du Nord. Le géant américain des ventes sur Internet va acquérir Souk.com, le numéro 1 du commerce par Internet au Moyen-Orient.
À présent, les sports avec Dili Deco. Bonjour.
Bonjour Idrissa.
En Angola, la police et les clubs de foot sont mis en cause dans une bousculade meurtrière.
Oui, tout à fait. La commission d'enquête ordonnée par le président angolais a rendu ses conclusions hier sur la bousculade qui a fait 17 morts et 58 blessés en février à l'entrée du stade de Ouija, peu avant le coup d'envoi d'un match entre le club local de Santa Rita et le Recreativo d'Olibolo dans le cadre du championnat de football angolais. La commission d'enquête estime que la Fédération provinciale de football de Ouija, le club de Santa Rita, la société de gestion du stade et la police nationale partagent une grande responsabilité dans l'accident. Le rapport met notamment en cause la décision du commissariat de police de ne pas ouvrir la porte du stade devant laquelle se pressait la foule.
Et suite à la suspension de Lionel Messi par la FIFA, le FC Barça dit de cette décision qu'elle est injuste et disproportionnée.
Une suspension de 4 matchs infligée à Lionel Messi pour avoir insulté un arbitre assistant pendant le match gagné 1-0 par l'Argentine face au Chili le 24 mars, en plus d'une amende d'environ 10 000 dollars. Le FC Barça a fait savoir hier sa surprise et son indignation face à la décision de la commission de discipline de la FIFA. Le club considère que la suspension de 4 matchs est totalement disproportionnée et le Barça a ajouté qu'il souhaite renouveler son soutien à Léo Messi, un joueur à la conduite exemplaire sur et hors du terrain.
Des nouvelles de Cristiano Ronaldo aussi ?
Oui, Idrissa. L'aéroport de Madère, l'île natale du footballeur Cristiano Ronaldo, a été rebaptisé hier en l'honneur du quadruple ballon d'or et capitaine de l'équipe du Portugal, sacrée championne d'Europe l'été dernier. Cristiano Ronaldo s'est dit très fier de cet honneur lors d'une cérémonie en présence du président de la République, Marcelo Rebelo de Sousa, et du premier ministre Antonio Costa.
La natation féminine en Afghanistan ?
Idrissa, savais-tu que des 30 piscines afghanes, une seule privée, accueille des filles ? Dans cette piscine unique qui accueille une poignée de pionnières décidées à se jeter à l'eau, les jeunes femmes ont fait savoir qu'elles espèrent décrocher une invitation aux JO de Tokyo en 2020.
Merci Dili. Et en basketball, championnat nord-américain, la NBA, voici les résultats des matchs d'hier soir. Atlanta et Philadelphie, 99-92. Oklahoma City et Orlando, 114-106. Milwaukee et Boston, 103-100. Charlotte et Toronto, 110-106. Miami et New York Knicks, 105-88. Indiana et Memphis, 97-110. Dallas et New Orleans Pelicans 118-121, Golden State Warriors et San Antonio 110-98.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Seydoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. C'est aujourd'hui que le Conseil de sécurité des Nations Unies va voter sur le renouvellement du mandat de la mission de l'ONU pour la stabilisation de la RDC, la MONUSCO. Quel bilan pour cette mission des Nations Unies présente en RDC depuis 1999, avec le plus important personnel de toutes les missions onusiennes, comptant près de 19 000 soldats, policiers et observateurs militaires, essentiellement dans l'Est et à Kinshasa? Eddy Sango a joint à Beni Nikaise Kibel Beloka, éditeur du journal Les Coulisses.
Globalement, par rapport à la mission première de la MONUSCO, aux deux missions, la protection des civils et l'appui au FARDC, la MONUSCO n'a pas réussi. Les civils continuent à mourir, les groupes armés sont toujours efficaces et opérationnels dans la partie qu'occupe la MONUSCO. L'appui au FARDC est un appui faible parce que la MONUSCO présente aussi des capacités faibles pour face aux groupes armés. Le dernier acte que la MONUSCO a posé, c'est la délocalisation des rebelles du Sud-Soudan pour le Nord Kivu et l'Ituri. Et il vient ajouter au FDLR, aux ADF, aux forces négatives des pays étrangers, une autre force qui peut créer des problèmes au niveau du Congo. C'est vrai, la MONUSCO a fait aussi quelques petits efforts, par exemple dans le domaine de la justice, l'encadrement et le renforcement des capacités, aussi dans certains projets sociaux, notamment et à Béni, par exemple, construction de la clôture de l'hôpital général, certaines écoles, à Goma, des routes, ainsi de suite. Mais par rapport à la mission première que les Nations Unies lui ont donnée, le bilan n'est pas un bilan positif.
Mais sans la présence de la MONUSCO, est-ce que la situation n'aurait pas été plus sérieuse en RDC?
Aussitôt qu'on a fait 18 ans et qu'on n'a pas pu stabiliser les pays pour lesquels on a été envoyé en mission, cette analyse-là ne tient pas. Il faut plutôt faire une analyse inverse en disant si la MONUSCO partait, les Congolais prendront leurs responsabilités pour trouver des solutions aux problèmes qu'ils vivent. Pour ceux qui voyagent, par exemple, avec des MOP par les avions de la MONUSCO, ne voyageront plus. L'État congolais pourrait trouver une solution pour tous ces fonctionnaires, tous ces magistrats, tous ces journalistes qui voyagent par les avions de la MONUSCO.
Depuis un temps, les gouvernements de la RDC demandent à la MONUSCO de partir ou de réduire ses effectifs, mais l'on voit que la situation dans le pays se dégrade.
Oui, la demande du gouvernement congolais n'est pas une demande sincère, parce que le gouvernement congolais sait qu'il est faible et que la MONUSCO essaie de l'appuyer dans ses faillites, dans ses failles et dans sa faiblesse. Il y a des régions où les gouverneurs n'arrivent que grâce aux hélicoptères de la MONUSCO.
Human Rights Watch et d'autres organisations craignent que la situation s'embrase maintenant que l'accord a échoué. Est-ce que la présence de la MONUSCO n'est pas nécessaire maintenant, plus que jamais?
Bon, la situation va s'embraser, bon, vraisemblablement, mais la MONUSCO ne pourra pas bloquer la situation.
Joint à Beni en RDC, Nikaise Kibel Beloka, éditeur du journal Les Coulisses.
VOA Afrique, 24h/24, à Kisangani, en RDC, sur 97.7 FM.
En Centrafrique, le président Faustin Archange Touadéra célèbre ce 30 mars le premier anniversaire de son accession à la tête d'un pays déchiré par 3 années de conflits armés. Un bilan satisfaisant selon le conseiller en communication et porte-parole de la présidence de la République centrafricaine, Albert Yaloké Mopkem, que Félix Yepassis Zembrou a pu joindre à Bangui.
en accédant au pouvoir, le président de la République s'est donné comme objectif que notre pays reprenne toute sa place dans le concert des nations. À cet effet, il a multiplié les actions diplomatiques aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur du continent africain. Aujourd'hui, la République centrafricaine est revenue dans l'ordre constitutionnel. Il a eu des interventions au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies, de l'Union européenne, de l'Union africaine pour plaider la côte centrafricaine. Ce travail a été fait et a été couronné de beaucoup de succès. Ça lui a permis effectivement de dire dans quel état se trouve l'économie de notre pays, dans quel état se trouvent les problèmes de défense de notre pays et aussi bien les infrastructures, comme tellement ça a été détruit par cette crise. C'est toutes ces difficultés-là qu'il a rencontrées et il a travaillé pour que progressivement nous retrouvions notre place. Nous avons été écoutés et aujourd'hui, grâce à la table ronde de Bruxelles, il a fait comprendre aux bailleurs, aux investisseurs et aux partenaires internationaux que la République centrafricaine doit revivre. Compte tenu de notre situation économique, il faut qu'on nous aide, qu'on nous donne des moyens, qu'on nous facilite beaucoup de choses pour remettre notre économie, notre pays en route.
Sur le plan intérieur, l'autorité de l'État n'est pas encore rétablie dans certaines régions du fait de l'insécurité qui perdure encore. Qu'en dites-vous ?
L'autorité de l'État n'est pas encore rétablie parce que quand la crise a commencé, les groupes qui envahissaient le territoire ont détruit l'administration, ont détruit les structures de l'État, ont détruit les infrastructures et ont occupé des zones de minerais et leur faisaient des butins de guerre. Voilà comment ils ont détruit ce pays. Et c'est un travail qui a été fait multiplicant parce qu'on détruit un pays en un jour. Mais pour le reconstruire, il faudrait beaucoup plus de temps que cela. Voilà la tâche à laquelle s'appelle le chef de l'État. Et aujourd'hui, grâce au projet qu'il a initié pour la réflexion des structures de l'État, des fonds ont été alloués par la Banque mondiale, par la Banque africaine de développement. Il y a eu des ajustements du FMI. Ça a permis justement de remettre progressivement les infrastructures de l'État, l'administration, et permettre aussi aux fonctionnaires qui n'ont pas pu, pour cause d'insécurité, regagner leur poste. Progressivement, ces fonctionnaires reviennent. Parce que grâce à l'administration de l'État, une ville peut vivre, un village peut vivre. C'est ce travail. Dans le cadre du DDR, le désarmement, on va amener les groupes qui étaient armés à déposer les armes, à se mettre autour d'une table et parler reconstruction et développement du pays. Beaucoup de groupes, sur les 14 qui sont recensés, ont adhéré. Mais il existe encore des poches d'exaction, ce que déplore amèrement le chef de l'État. Par le travail qu'il met en œuvre pour le rétablissement de la paix et de la sécurité, lui, il dit, je n'ai pas de guerre à faire contre d'autres centrafricains. Par le dialogue, je vais amener tout le monde autour de la table de discussion pour qu'on pense à reconstruire notre pays, à développer notre pays pour le bien-être de tous.
C'était Albert Yaloké Mokpem, conseiller en communication et porte-parole de la présidence centrafricaine.
Votre rendez-vous quotidien sur VOA Afrique à Bangui, c'est sur 101.7 FM en République centrafricaine.
Les enseignants du Cameroun sont en grève depuis lundi. Certains d'entre eux réclament plus de 60 mois d'arriérés de salaire. Solange Niamoulissa a recueilli le témoignage d'une enseignante camerounaise qui a préféré garder l'anonymat par peur de représailles.
Je suis enseignante, professeure de lycée. Je suis sur le terrain depuis septembre 2014. Je suis donc à plus de 30 mois sans salaire. Et c'est une procédure, bon, ce qu'on dit au Cameroun, normal parce que je suis ECI, enseignant en cours d'intégration. Durant cette phase, les enseignants n'ont pas de salaire parce que nous sommes en cours d'intégration.
Pourquoi vous n'êtes pas payé?
On nous dit qu'il faut qu'on soit d'abord intégré comme fonctionnaire de l'État avant de percevoir les salaires. Normalement, ça devrait avoir lieu peut-être au maximum 6 mois après la sortie de l'école normale supérieure. Mais là, le système est tellement lent qu'on y va jusqu'à plus de 30 mois, donc à plus de 2 ans et demi sur le terrain, sans salaire.
Alors, vous avez déclenché une grève depuis lundi. Est-ce que la grève est suivie?
Oui, la grève est suivie par les 3 ministères. Le ministère des fonctions publiques, le ministère des enseignements secondaires et le ministère des finances. Donc, les 3 ministères sont en relation. C'est eux qui doivent gérer notre problème. Fonctions publiques pour l'intégration, ministère qui est notre ministère d'origine, et Minfopra et ministère des Finances pour nous financer, nous remettre notre argent. Ils disent qu'ils sont en train de voir comment ils peuvent remédier à cette situation. Mais jusque-là, rien.
Est-ce que le gouvernement promet une solution?
Le gouvernement promet toujours une solution. Mais ce qui se passe, c'est qu'il y a un autre système par derrière. Ceux qui travaillent dans les ministères, le ministère de la fonction publique et des réformes administratives, parmi eux, il y a ce qu'on appelle les infiltrés. Ils demandent aux enseignants qui sont sur le terrain si vous voulez être intégrés rapidement ou bien si vous voulez que votre salaire sorte, vous devez payer telle somme. Et là, dès que vous dites oui, je suis d'accord, ils prennent un pourcentage de votre salaire, par exemple, ils demandent 15%. Si je me base juste ça, c'est qu'on te programme pour que ton salaire passe, tu es prêt à me donner 15%. Si tu réponds, allez, d'ici 2 mois ou 3 mois, ton salaire commence à passer.
Et est-ce que vous avez déjà dénoncé ces problèmes?
Ils le savent. On peut bien dénoncer, mais ça n'aboutira pas. Parce qu'il y a ceux qui sont allés à la CONAC. La CONAC est une structure de lutte contre la corruption au Cameroun. Il y a les enseignants qui sont allés dénoncer cette situation. Mais jusque-là, rien, ça n'a pas changé. C'est pour cela qu'on a décidé de gréver.
Et avec la grève, vous pensez que ça va changer quelque chose?
Oui, on espère beaucoup parce qu'on est en fin d'année scolaire. Avec la grève, si les enseignants décident de ne plus travailler, il n'y aura pas les examens officiels. Qui va corriger les examens officiels afin qu'il y ait les résultats? Les enseignants sont en grève, impossible. Donc on mise sur cette période pour faire la grève, afin qu'on résout notre problème.
Et dans les cas échéants, que comptez-vous faire?
On va continuer à travailler parce qu'on n'a pas le choix. Ici, au Cameroun, c'est un luxe d'être fonctionnaire de l'État.
Une enseignante camerounaise qui a préféré garder l'anonymat. En Inde, les attaques d'étudiants africains sont de plus en plus nombreuses. Une étudiante kényane a été frappée hier par des agresseurs et plusieurs étudiants africains ont été pris à partie après la mort dimanche d'un adolescent à la suite d'une overdose. 5 étudiants nigériens ont été arrêtés dans le cadre de cette affaire, puis relâchés faute de preuves. Pour comprendre la situation, Dilidiko a joint Arnold Mutombo, secrétaire général de l'Association des étudiants africains à New Delhi.
Il y a eu, après l'arrestation de nos amis nigériens, qui ont été soupçonnés d'avoir donné la drogue à un enfant de leur voisin, il y avait un mouvement. Les Africains, nous étions réunis pour aller protester contre l'action parce que, premièrement, nos amis ont été arrêtés injustement parce que il n'y avait pas eu l'investigation. Il n'y avait pas des éléments qui prouvaient que réellement ce sont eux qui ont donné de la drogue à l'enfant qui était mort. Le mal qu'il y avait, c'est parce que nos amis étaient Africains. Et voilà pourquoi la police les avait arrêtés. Concernant l'enfant qui a été mort, nous sommes tous sans ignorer que depuis un certain moment ici en Inde, les Africains ont une très mauvaise image parce que les Indiens ne savent pas réellement c'est quoi l'Afrique. Et leur système de gaz ne leur permet pas d'ouvrir au moins l'œil sur ce qui se passe réellement en Afrique. Pour eux, toute personne qui a la peau noire, c'est un tueur, c'est quelqu'un qui mange les hommes, un cannibale en quelque sorte. La situation est encore très tendue. Tout de suite, ils venaient de recevoir l'appel venant de nos frères là-bas, à Noida. Ils sont encore enfermés dans leur maison.
Des poursuites judiciaires sont-elles engagées contre les personnes ayant attaqué ou essayé de tuer des étudiants africains?
Concernant le cas d'Olivier qui a été assassiné l'année passée, nous étions en réunion récemment avec la police. Ils nous ont dit que ceux qui ont été soupçonnés de l'avoir assassiné sont aux arrêts. Maintenant, c'est à la justice de continuer. Et jusqu'à présent, il n'y a pas quelque chose qui a été signalé dans ce sens-là. Mais les 3 suspects sont aux arrêts selon la police.
Est-ce que vous pensez qu'ils seront inculpés ou vont-ils tout simplement être relâchés?
Avec l'expérience que nous avons de la justice indienne, ça prend beaucoup de temps. La Congolaise qui a été tuée à Hyderabad, il y a le procès qui a été ouvert. Mais jusqu'à présent, ça prend beaucoup de temps. Mais concernant Olivier, jusqu'à présent, il n'y a pas un procès qui a été ouvert au niveau de la justice.
Est-ce que l'État indien a mis en place des mesures ou un dispositif d'aide aux étudiants africains?
Le gouvernement indien, via leur ministre des Affaires étrangères, nous avait promis de faire une campagne de sensibilisation au niveau du petit peuple. Le problème que les Africains rencontrent ici, c'est au niveau du petit peuple, qui n'ont pas cette culture-là d'hospitalité. On avait aussi reçu une promesse de travailler avec la police. Nous voulons que leur promesse se matérialise.
Eh bien, c'était Arnold Mutombo, secrétaire général de l'Association des étudiants africains en Inde, joint par Dili Diko à New Delhi. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. Merci aussi à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sedoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.